Alerte maximale à La Réunion, le cyclone Belal et ses rafales jusqu'à 250 km/h est en train de frapper l'île. Sur le territoire, 6 agences OPT de la côte Est fermées aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève de la Fédé. Vous entendrez le directeur de l'OPT. Des vacances hors normes pour 34 scouts calédoniens. Ils s'envoleront mercredi pour la Thaïlande où ils passeront 3 semaines. En métropole, c'est la troisième fois seulement qu'il se livrera à cet exercice depuis qu'il est à l'Élysée. Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse mercredi matin pour nous. Il reste 132 otages aux mains du Hamas. Cela fait 100 jours qu'ils sont détenus. Des manifestations de soutien ont eu lieu un peu partout dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme chaque lundi par le magazine des sports. Bonjour Mickaël Gineski.
Bonjour Jean-François.
Alors parmi les sujets de ce magazine des sports, nous parlerons tennis avec le début de l'Open de Melbourne.
Et ouais, les premiers coups de raquette ont été donnés hier sur l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année. On attend de savoir bien entendu si les Français passeront en deuxième semaine. On retrouvera des joueurs qui étaient de passage à l'Open SIFA de Nouméa comme Cazaux, Gasquet, Grenier, Gaston ou Lestienne, mais aussi Gaël Monfils et Adrian Manarino dès cet après-midi, tout comme Caroline Garcia. Et puis, l'attraction principale, c'est évidemment Novak Djokovic qui vise un 25e sacre en Grand Chelem.
Nous parlerons également évidemment de la suite du Dakar sur lequel Sébastien Loeb se sent de plus en plus à l'aise.
Opération Remontada lancée pour Loeb qui court après l'Espagnol Carlos Sainz au classement général. L'ancien champion du monde des rallyes est remonté à la deuxième place et va tenter de rattraper son retard qui est désormais de 19 minutes sur le leader à l'issue de la 7e étape dans un rallye raid où toutes les surprises sont possibles sur les pistes d'Arabie Saoudite.
Et puis concernant l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie qui est très calme en ce moment. Nous parlerons d'un événement à venir dans quelques mois, mais il faut s'y préparer, c'est l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie.
Ouais, ce sera l'un des grands rendez-vous de l'année 2024, l'UTNC, une épreuve désormais de portée internationale. Elle est prévue du 18 au 19 mai à Ploum, au Mont d'Or. Les plus aguerris ont déjà coché les dates dans leur calendrier. Les inscriptions sont ouvertes. Nous ferons le point avec Daniel Bonnefils, l'organisateur du Festival des Trails ECNJ 2024.
On se retrouve donc pour le Mac des Sports dès la fin de ce journal. À 13h, heure de Nouméa, l'alerte violette sera déclenchée sur toute l'île de La Réunion. C'est l'alerte maximum qui implique un confinement strict de la population, mais aussi des personnels des services de secours. Le cyclone Belal devrait être le plus violent à toucher l'île depuis ces 30 dernières années. Anthony Kexmarek pour Europe 1.
Le cyclone Belal est à nouveau en train de s'intensifier et il pourrait atteindre dans les prochaines heures le stade de cyclone tropical intense. Encore beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire de l'œil du cyclone, c'est autour de cet œil que les vents sont les plus forts. L'œil pourrait soit longer les côtes réunionnaises, soit malheureusement traverser toute l'île du nord-ouest vers le sud-est. En tout cas, les impacts seront vraiment dévastateurs en termes de vent avec des rafales attendues entre 200 et 250 km/h, une houle cyclonique de 8 à 12 mètres et puis des pluies très intense, l'équivalent de ce qu'il tombe en 2 ans à Paris pourrait tomber en une seule journée, 1000 à 1500 mm de pluie.
La situation est suivie de près par le Premier ministre Gabriel Attal qui est en contact avec la cellule de crise installée à Paris. Sur le territoire, la communauté réunionnaise de Calédonie suit évidemment de près la situation. Marie Némorin, originaire de Saint-Paul à La Réunion, s'inquiète pour sa famille sur place.
Hier, donc, j'ai essayé d'appeler ma sœur qui me disait mais ça commençait à beaucoup pleuvoir. Et qu'elle devait rentrer la voiture, elle ne l'a pas fait. Mais en fin de compte, ça a commencé à beaucoup pleuvoir et à souffler. Je ne connaissais pas l'existence de l'alerte violette. Hein. Je dois vous dire, pour moi, c'était la dernière alerte, c'était l'alerte rouge. Je suis un peu inquiète parce que j'ai maman qui est toute seule. Bon, c'est vrai que j'ai ma sœur qui habite à côté. Mais bon, mais quand il y a le vent, quand il y a la pluie, la plupart du temps, chacun reste chez soi. Alors, je ne sais pas si ma mère est allée chez ma sœur ou je ne sais pas comment ça se passe. Là, j'ai essayé d'appeler. Et ça ne répond pas. Le fil électrique est peut-être tombé. Je vais essayer de rappeler tout à l'heure pour voir ce que ça donne.
Des propos recueillis par Léana Colombo. Je vous rappelle que l'île de La Réunion sera donc placée en alerte violette à 13h, heure de Nouméa. L'actualité politique du week-end a été marquée par la réunion amicale organisée à Pointe-Bout par le député de la seconde circonscription. Nicolas Metzdorf, entouré de nombreux élus et personnalités de la brousse calédonienne, a émis 3 vœux pour 2024. La conclusion d'un accord sur l'avenir institutionnel avec les indépendantistes, le sauvetage des 3 usines de nickel et la reconquête du pouvoir au Congrès et au gouvernement. Sur ce dernier point, Nicolas Metzdorf a insisté sur la nécessité absolue de l'union de tous les non-indépendantistes dans la perspective des provinciales 2024, une campagne à laquelle il a annoncé son intention de prendre toute sa part. De son côté, l'UPM tenait samedi son comité central à Poum. Il était surtout consacré aux affaires internes du parti, notamment l'élaboration du budget, à l'établissement du calendrier de travail de l'année ou encore la mise en place des décisions du congrès de l'UPM en novembre dernier. Mais il a été aussi question d'actualité, nous a dit Victor Tutugoro, le président de l'UPM.
Le comité central central a acté, par exemple, l'arrêt des discussions avec le gouvernement central, le ministre des Relations extérieures, a pris en compte, a noté les remplacements au niveau de l'État, a pris acte du changement de Premier ministre. Donc, c'est de la responsabilité du chef de l'État. Le parti souhaite simplement ce que les implications du gouvernement dans les discussions, les implications telles qu'étaient, c'était celles de la première ministre qu'on retrouve auprès du nouveau premier ministre aujourd'hui, pour qu'effectivement, on puisse trouver rapidement un accord de compromis politique.
Le comité central de l'UPM a tenu, je cite, à condamner le recours de Génération NC devant le tribunal administratif pour demander le retrait du drapeau kanak des permis de conduire. Et concernant les discussions sur l'avenir, Victor Tutugoro, le président de l'UPM, estime qu'elles doivent se poursuivre pour aboutir à un accord, car, dit-il, vous allez l'entendre, nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Le comité central encourage par ailleurs à ce que les discussions puissent continuer pour essayer justement de trouver un compromis, un accord de compromis politique, et notamment avec les loyalistes et le rassemblement, notamment, parce que l'accord semble avoir été trouvé maintenant avec les amis ensemble. Et donc oui, le comité central encourager à ce que les discussions se poursuivent pour trouver un accord entre tous les Calédoniens, puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Victor Tutugoro, le président de l'UPM, des propos recueillis hier soir par Kélinda Boiscou. Il est 11h37, une première pause dans ce journal, dans un instant l'actualité sociale avec 6 agences OPT de la Côte Est qui resteront fermées aujourd'hui.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Chaque semaine, 100 000 francs de bons d'achat sont à gagner sur RRB. À dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Pour jouer, envoyez RRB au 4020. Tous les 2000 SMS pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés et le ou la gagnante choisit elle-même comment les dépenser. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous êtes le 10 millième, alors vous devenez millionnaire. Oui, 1 million de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Alors, tentez votre chance et envoyez RRB au 4020.
371 francs par SMS. Règlement et conditions de remboursement disponibles sur demande à l'accueil de la radio.
N'oubliez pas RRB au 4020. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
6 agences OPT de la Côte Est vont rester fermées aujourd'hui en raison d'un mouvement social des agents de l'opérateur à l'appel de la FEDE. Le syndicat dénonce la réorganisation interne de l'OPT. Écoutez à ce propos le directeur général de l'OPT, Thomas Dedecker.
L'OPT, dans le cadre de la mise en place de son plan stratégique, a dû se réorganiser. Et dans le cadre de cette réorganisation, on a revu un peu le maillage de nos agences. Elles étaient jusqu'à présent gérées par 5 chefs de zone. On a revu leur périmètre d'activité et on a redécoupé en 3 zones seulement la gestion des 54 agences. C'est cette répartition qui est aujourd'hui contestée par le syndicat. Il y avait aussi 5 autres points dans le préavis de grève. En gros, sur ces 5, il y en a 3 auxquels on a donné raison. D'où ce préavis de grève qui aujourd'hui concerne donc 6 agences, 23 personnes sur les 1200 que contient l'OPT.
Elles sont concernées par cette fermeture temporaire, les agences de Pointe-d'Imier, Touo, Ponériouin, Yengen, Wailou et Puebo. Ces agences rouvriront leurs portes aux horaires habituels dès demain. L'OPT a donné rendez-vous dans 6 mois à la FEDE pour faire le bilan de ce remaniement et l'ajuster le cas échéant. L'OPT qui présente ses excuses aux personnes qui pourraient être impactées. C'est le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, qui était ce matin notre invité à 7h30. L'occasion de faire avec lui le point sur la multiplication des feux, les projets de la commune ou encore le sentiment des maires à l'aube d'une année qui s'annonce importante sur le plan institutionnel, Gilles Ménage.
Sur la question des incendies, le maire du Mont-d'Or a souligné que celui de la plaine du champ de bataille, notamment, a mobilisé de très nombreux moyens de la commune, de la DSCGR, des villes voisines et même du RIMAP. Plus de 70 personnes et 15 engins ont lutté un moment contre les flammes. Au-delà du bilan environnemental désastreux, Eddy Le Courrieux déplore le caractère criminel de ces incendies qui se multiplient.
Ce week-end, il y a à nouveau eu un départ de feu sur la plaine du champ de bataille. Plusieurs parcelles ont été brûlées quand même. Hein. Donc on attend le bilan là, de Sud-Forêt qui est quand même assez conséquent. Presque 1500 hectares de végétation. Ces espèces-là, elles sont endémiques, elles sont rares. Ce n'est pas de la broue, ce n'est pas de la paille. Et il faut que chacun y mette du sien pour qu'on puisse conserver tout cela.
On sait que la plupart des incendies sont liés à l'action de l'homme, parfois de façon volontaire. Vous avez eu des informations sur les incendies qui ont touché votre commune ?
Oui, la plupart et pratiquement tous sont de façon volontaire. Mais pire que ça, c'est criminel. Je veux dire, avant, on faisait un feu de paille à côté de la maison et ça prenait dans le champ. Là, aujourd'hui, c'est carrément des gens qui mettent le feu. Il y a eu une mode cette année. Et vraiment, je demande à la justice d'être mais sans concession hein, avec ces personnes. Alors, soit ce sont des personnes qui s'amusent, soit ce sont des personnes qui sont malades. La justice doit vraiment faire son travail. Et j'invite vraiment le procureur à rien lâcher là-dessus.
Quoi. Sur la question des incendies encore, Élie Le Courrier est revenu sur le projet d'installation d'un CIS, un centre d'incendie et de secours sur la commune du Mont-d'Or. 68 millions de francs ont été investis dans les études qui seront terminées cette année pour un début de chantier prévu l'année prochaine. Plus généralement, Élie Le Courrier estime que les maires manquent de visibilité financière sur leur capacité à investir, en raison notamment des mesures fiscales prévues au vote du Congrès et du manque à gagner qu'elles représenteraient pour les communes. Le maire du Mont-d'Or, interrogé par ailleurs sur l'avenir institutionnel, est-il serein, inquiet ou tranquille ? La réponse d'Élie Le Courrier.
Alors on est tellement tranquille que personne ne vient nous voir pour nous demander notre avis. Les maires sont mis totalement de côté sur ces discussions. Alors tant mieux, ça nous laisse travailler sur d'autres dossiers. Mais en même temps, tranquille non, parce que les administrés ne sont pas tranquilles aujourd'hui. On attend ces discussions, on attend ce statut. Et moi je vois les gens quand ils viennent à la mairie, dans quel état d'excitation ils sont. On voit bien que la population elle est inquiète. J'entendais l'UPM là, qui disait « on est prêt à discuter, on est prêt ». Enfin, j'allais dire « il serait temps quoi ». Les gens sont au désarroi, ils ne savent pas ça va être quoi leur lendemain. Enfin, je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Donc oui, moi je suis très content que les discussions semblent avancer et maintenant il faudrait qu'elles se clôturent. C'est vraiment le message de cœur du maire que je suis. N'oublions pas les uns les autres que nous avons été élus pour notre population.
Une interview d'Élie Le Courrier, maire du Mont-d'Or, que vous pouvez bien sûr retrouver en réécoute audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Allez, parlons maintenant des vacances, comme nous le faisons régulièrement dans nos différents journaux d'information. Et ce midi, Frédéric Joncheret zoome sur 34 scouts de Nouvelle-Calédonie qui décollent mercredi soir pour la Thaïlande.
Un voyage en complément des activités réalisées tout au long de l'année, un séjour de 3 semaines qui s'inscrit dans le cadre des jumelages entre l'association et 3 pays asiatiques, le Vietnam, l'Indonésie et donc la Thaïlande. Les précisions de Michel Reversé, président des scouts de Nouvelle-Calédonie.
Tous les ans, on va dans un de ces pays. L'année dernière, on était au Vietnam. Et donc, cette année, c'est la Thaïlande qui est le plus vieux jumelage. Depuis janvier 2003, ça fait donc 21 ans qu'on est jumelé avec la ville de Chiang Mai, avec le groupe scout de Natasin. On fait à la fois du scoutisme, à la fois du tourisme. On découvre le pays. C'est magique. Les 12 premiers jours, 15 premiers jours, on fait tout le nord de la Thaïlande, ce qu'on appelle le triangle d'or. On va faire Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Dao. On va jusqu'à la frontière de la Birmanie. On va faire une incursion au Laos, on va naviguer sur le Mekong, sur Bangkok, il y a toute une partie ludique avec les parcs d'attractions, le Safari World. On va aussi aller dans le sud-est, dans la région de Kanchanaburi, où il y a le célèbre pont de la rivière Kwai. C'est un melting pot de tout ce qu'on peut faire dans un pays comme ça à découvrir.
Parmi les 34 jeunes qui vont partir avec leurs 6 chefs scouts, les éclaireurs Colin Imbert et Théo Kilikili, qui ont hâte de redécouvrir un nouveau pays avec leurs camarades.
Je suis partie au Vietnam en janvier 2023. C'était bien, on a visité plein de temps, de beaux paysages, de beaux endroits. Je pense que ça va être très bien, savoir s'il y a beaucoup de ressemblances ou si c'est complètement différent.
On est ensemble entre amis et genre on découvre des choses que dans un voyage familial ou dans un voyage normal, genre on ne pourra pas regarder, on va voir des paysages autres. C'est ça que j'aime bien quand on part avec les scouts. De découvrir une autre culture, découvrir de nouveaux paysages. Par exemple, là-bas, je crois, c'est un roi qui dirige et ici, par exemple, c'est le président. Je crois peut-être que ça peut changer ou quoi.
Une superbe expérience de vie enrichissante pour ces jeunes scouts, l'occasion pour eux de se rendre compte que le mouvement scoutisme est planétaire. Et ajoutons que 24 scouts indonésiens viendront sur le territoire du 3 au 18 août, l'Indonésie qui sera la future destination 2025 de nos scouts.
Il est midi 45 sur Radio Rythme Bleu, le journal se poursuit dans un instant avec une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Jean-Marc raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Du 9 janvier au 2 février, profitez de l'été avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous au complexe sportif de Magenta du mardi au vendredi de 9h à 16h.
Animations sportives, socio-éducatives et culturelles, tournois et activités en plein air pour toute la famille.
Et comme chaque année, des navettes gratuites partiront des espaces municipaux de Nouméa et le bus 1, 2, 3 prendra son départ tous les jeudis à destination de Dembéa, du Mont d'Or et de Païta.
Retrouvez le programme complet sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite de d'Infomag avec l'actualité en métropole.
Et c'est la première fois qu'il s'exprimera depuis la nomination du nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse qu'on annonce XXL sans plus de précision. C'est la troisième fois seulement depuis son élection en 2017 qu'il se livrera à cet exercice annoncé comme un rendez-vous avec la nation. Cette conférence de presse aura lieu mardi soir en métropole à 20h15, c'est-à-dire mercredi matin, heure de Nouméa, à 6h15. Le Premier ministre Gabriel Attal, qui a effectué 5 déplacements en 5 jours depuis sa nomination à Matignon. Le dernier, cette nuit pour nous, c'était sur le marché de Caen, dans le Calvados. Il s'agit de montrer pour le Premier ministre qu'il est sur le terrain et à l'écoute des Français. Jacques Serey pour Europe 1.
Sur ce marché de Caen, Gabriel Attal multiplie les poignées de main, les selfies.
Bonjour.
Interpellé sur la loi immigration, il répond sans détour à cette passante venue à sa rencontre.
Quand vous voyez le camp de Ouistreham, le camp de migrants, mais comment on peut accepter ça?
On se rejoint, mais vous savez, pendant des années, ça a été aussi beaucoup d'hypocrisie, parce qu'il y avait déjà ces situations. Puis il n'y avait pas de texte de loi qui permettait de prendre ça en main, puis faire en sorte qu'on ait une meilleure organisation. Parce qu'à la fin, laisser des personnes venir sur notre sol avec une forme de mirage, en sachant très bien qu'on ne pourra pas les accueillir, c'est pas leur rendre service non plus.
Quelques pas plus loin, c'est sur le pouvoir d'achat que le nouveau Premier ministre est attendu, alors que des manifestants tentent de s'approcher.
Moi, ma priorité, c'est quoi? C'est effectivement les classes moyennes qui travaillent, qui peuvent compter ni sur des aides sociales, ni sur un patrimoine particulièrement puissant pour les aider. Et ensuite, je veux que les personnes qui sont dans le besoin, on puisse les sortir de la pauvreté, notamment par le travail.
On a pas d'annonce, mais 2 heures de déambulation. Gabriel Attal cherche à imprimer son style, celle d'un Premier ministre avant tout sur le terrain.
Jacques Serey pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de notre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Est-ce une bonne chose, selon vous, que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire aient conservé leur ministère dans le gouvernement Attal et donc le suivi du dossier calédonien? Si c'est une bonne chose pour vous, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Cela fait 100 jours maintenant que le Hamas a mené son attaque meurtrière sur Israël et 100 jours qu'elle détient toujours des otages. Il en reste 132 dont on est sans nouvelles, parmi lesquels figurent 3 Français. Plusieurs de ces otages pourraient avoir été tués récemment, fait savoir le Hamas, qui en fait porter évidemment la responsabilité à Israël et à son offensive dans la bande de Gaza. C'est pour ne pas oublier ces otages que des rassemblements ont été organisés un peu partout dans le monde. À Paris, des motards de plusieurs associations juives se sont retrouvés du côté de la place de la Bastille.
100 jours, c'est toujours symbolique. L'idée, c'est de ne pas oublier les otages, c'est de continuer à espérer que le nécessaire soit fait pour qu'on ne les oublie pas. On aimerait que les négociations reprennent, ce qui entraînerait probablement une trêve. Et là, tout est entre les mains du Hamas, c'est eux qui ont les otages.
Tous ceux qui sont otages, pour moi, c'est comme ma famille, en fait. On a besoin de ce rassemblement, on a besoin de dire qu'on est là, qu'on ne laissera pas tomber, qu'on sera derrière à se battre. 100 jours, c'est énorme, enfin, dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. En plus, dans des conditions dramatiques.
Et de son côté, le président du CRIF, Yonatan Arfi, souhaite à l'occasion de cette manifestation la mise en place d'une journée de commémoration.
Je souhaite qu'un hommage national puisse être rendu le plus rapidement possible aux victimes, aux 41 Français victimes des attentats terroristes du 7 octobre. Le président de la République l'avait annoncé, une doit être fixée, nous souhaitons qu'elle puisse être fixée le plus rapidement possible, parce que ce sera une manière de faire rentrer dans la mémoire nationale le fait que 41 de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. C'est le bilan le plus lourd depuis l'attentat de Nice en nombre de Français tués. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que tous les Français ont une possibilité de contribuer à garder cette question entre guillemets vivante, de faire que le destin de notamment nos 3 compatriotes aujourd'hui otages du Hamas ne soit pas oublié, comme nous l'avons toujours fait en France pour l'ensemble de nos otages dans le monde entier par le passé, et nous obtiendrons, j'en suis convaincu, leur libération.
Jonathan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. La France et l'Allemagne soutiendront l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, déclaration du nouveau ministre des Affaires étrangères. Juste après sa nomination, Stéphane Séjourné s'est en effet rendu à Kiev, puis à Berlin, où il a rencontré son homologue allemand. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra dans les prochains jours en Suisse, où il a été invité à participer au forum de Davos. Il est 11h51.